La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. C'est un monument de la littérature allemande que nous nous intéressons cette semaine dans la Compagnie des œuvres. Un monument car il s'est intéressé lui à tout, la poésie, le roman, le théâtre, mais aussi les sciences et même la politique et l'administration, puisque Goethe a conduit aux destinées du duché de Weimar sous les ordres du duc. Il est aussi un monument de par l'ampleur de la marque qu'il laisse dans la culture allemande et européenne, car Goethe était un grand cosmopolite. Tout cela, nous allons l'approfondir demain en compagnie de Claude Roels, qui nous dira comment lire Goethe aujourd'hui, en nous parlant notamment de son célèbre roman « Les souffrances du jeune Werther ». Et puis nous poursuivrons mercredi, ce sera avec Jacques Le Rider qui viendra nous parler de sa pièce Faust, ou plutôt de ses pièces Faust, car il en a rédigé plusieurs versions au fil des décennies. Et puis on terminera jeudi avec Jean Lacoste qui nous parlera du voyage en Italie de Goethe ainsi que de son traité sur la couleur. Et aujourd'hui ?
Ce qui m'a toujours fait le plus d'impression dans Goethe, c'était l'ensemble de sa vie et de ses œuvres. C'est presque indiscernable chez lui. C'est quelqu'un qui a été le premier à observer son développement biographique et à intégrer ses œuvres dans sa vie ou sa vie dans ses œuvres, ce qu'ont très bien montré ses biographes récents. Il a été le premier à avoir conscience de ce mariage intime de la vie et de l'œuvre, l'un réagissant sur l'autre. N'est-ce pas, Goethe, pour les raisons que je viens de dire, est l'homme qui se prête par excellence à la biographie, puisque en même temps qu'on fait sa biographie, on est obligé de parler de son œuvre. Et on ne peut pas comprendre son œuvre sans voir de très près sa biographie.
L'écrivain Denis de Rougemont au micro de Claude Metra en 1969. Alors aujourd'hui, pour raconter la vie, très liée donc à son œuvre de Goethe, eh bien nous sommes en votre compagnie, Sylvie Lemoyle. Bonjour.
Bonjour.
Voilà, vous êtes à distance, il y a un petit délai. Alors vous êtes professeur d'études germaniques à la Sorbonne, autrice d'un ouvrage sur un écrivain allemand qui s'appelle Wilhelm Heinz et qui fait partie du mouvement d'avant-garde Sturm und Drang, tout comme Goethe. Et dans ce mouvement Sturm und Drang, qu'on pourrait traduire par tempête et passion, eh bien ce qui ressort surtout, c'est un certain portrait de l'artiste en génie. Et durant les années où il a vécu, eh bien Goethe a incarné, peut-être plus qu'aucun autre, en tous les cas, vous allez nous le dire, l'idée même de génie. Sylvie Lemoyle.
Oui, alors effectivement, vous vous mettez en relation Goethe et Heinz. Heinz a été un ami de jeunesse de Goethe, justement dans cette fameuse période Sturm und Drang. Alors, vous avez évoqué cette période. Elle est décisive pour la création de Goethe, bien sûr. C'est elle, à partir de cette période, qui va fonder son succès, sa reconnaissance. Mais c'est une période qui est décisive aussi à propos, justement, de la notion même de génie. Parce que c'est une période qui va, une période très brève, hein, le début des années 1770, où justement on va infléchir l'idée ancienne de génie. C'est-à-dire que le problème, ça n'est plus avoir du génie, de l'invention, mais c'est être un génie. Et c'est donc une inflexion dont on se ressent encore aujourd'hui. C'est l'avènement donc d'une exaltation du génie individuel, de l'individu créateur, et qui va de pair avec le culte de l'originalité irréductible, qui est lié à cette notion de génie.
Donc c'est presque un changement de société, alors.
Et donc, Goethe, oui, en tout cas, c'est un changement de mentalité. Et c'est un changement de regard sur la création artistique et la création littéraire. Voilà. Et Goethe va participer à ce changement de regard, ce qui ne veut pas dire qu'il va adhérer très très longtemps à cette exaltation du génie créateur, incontrôlé, contre les règles, rebelle, etc. Ça va être un moment chez Goethe. Mais comme toujours chez Goethe, c'est un moment qu'il va utiliser, qu'il va exploiter et qui sera une étape. une étape formatrice, mais pas décisive. Donc la réflexion sur le génie, elle va accompagner toute l'œuvre de Goethe, mais il va se dégager assez vite de l'idéalisation du génie comme principe de subjectivité maximum.
Alors Goethe a souvent comparé sa vie à une course en traîneau splendide et sonore, où il y en avait beaucoup pour les yeux et pour les oreilles. Qu'est-ce que ça signifie de comparer sa vie à ça? Est-ce que ça reflète un petit peu l'énergie très très grande de Goethe?
Oui, alors l'énergie, bien sûr, mais il s'agit aussi de contrôler l'énergie. Et puisque vous parlez du traîneau, moi je pensais à une autre image qui est celle du patin à glace. Parce que Goethe a été un patineur, un excellent patineur, un patineur confirmé, avec donc l'énergie que ça suppose, hein, la course sur les étangs gelés. Et puis en même temps, le patinage, ça peut être aussi un art. C'est pas seulement un sport, c'est un art avec des figures imposées.
Il a fait
un
aussi
art de l'équilibre, de la maîtrise, hein, de son corps, bien sûr.
Il a aussi été escrimeur, cavalier. Donc le rapport au corps est important pour Goethe.
Oui, il est très important. Goethe marche, Goethe chevauche, Goethe fait du patin à glace, Goethe bouge, ça n'est pas un savant en chambre. Et c'est quelqu'un qui a nourri aussi toute sa poésie du déplacement, donc du voyage, je pense que vous le verrez avec une autre émission, bien sûr, mais aussi ce déplacement à pied, à cheval, cette volonté d'avancer dans une grande chevauchée, mais aussi de contrôler la chevauchée. Donc il y a toujours les deux, hein. L'énergie, mais le contrôle de l'énergie.
Oui, alors il faut contrôler son énergie quand on est Goethe, parce que Goethe est en effet sans doute un génie, mais un génie particulièrement tourmenté, particulièrement inquiet, Sylvie Lemoyle.
Oui, alors c'est un génie inquiet, et ça aussi, il va le remontrer dans son œuvre, il va le problématiser dans son œuvre. On le voit dès l'enfance, dès l'adolescence, Goethe est quelqu'un qui est fragile, qui a à la fois une conscience forte de sa valeur, mais qui en même temps est sujet à des crises, à des maladies psychosomatiques, on dirait aujourd'hui, et donc une fragilité psychique. Et c'est ça là aussi qu'il va transmuter dans son œuvre, en présentant aussi des personnages qui sont des personnages en crise, des personnages mélancoliques, tourmentés, comme il a été lui-même. Mais l'écriture, ça permet justement de surmonter, de transmuter la souffrance en création, en activité.
Et puis lui-même est conscient de comment il est. Il sait qu'il est par exemple hypochondriaque, il le reconnaissait lui-même.
Il le reconnaît tout à fait, et il va faire finalement avec Werther une première figure de génie tourmenté, de génie inachevé, de génie raté, d'hypochondriaque. Et donc il va justement essayer de transformer ce qui pourrait apparaître comme une faiblesse en une force créatrice.
Voilà, quand vous dites avec
Werther. Cela suppose évidemment.
C'est évidemment son livre « Les souffrances du jeune Werther ». Parlons peut-être un peu justement de son enfance, Sylvie Lemoyle. On n'a pas donné son nom en entier, il s'appelle Johann Wolfgang von Goethe et il est né à Francfort-sur-le-Main le 28 août 1749 à midi. Alors il paraît que, peut-être une anecdote, sa mère a raconté que l'accouchement avait été difficile et Bettina Brentano, une femme dont on reparlera peut-être mais qui s'est assez tôt intéressée à Goethe et qui a raconté sa vie, a dit lui qu'il n'avait pas eu une petite enfance très heureuse, que bébé il faisait des cauchemars. Sylvie Lemoyle.
Oui, alors c'est aussi ce qu'il raconte dans Poésie et Vérité. Alors Poésie et Vérité, il y a vérité, mais c'est aussi une vérité reconstruite, hein, une sorte d'auto-mise en scène. Hein, mais il est certain que son enfance est quand même relativement solitaire. Il y a évidemment l'association très étroite avec sa sœur, la seule des frères et sœurs qui lui reste, Cornelia.
Hein, les autres sont morts de maladie,
hein, complément,
ou alors en voilà. Couche.
Et les autres sont morts, oui, il ne reste que Cornelia, voilà, comme c'était fréquent à l'époque, il ne reste que Cornelia. Et Cornelia, ça sera l'amie, la confidente jusqu'à sa mort précoce, hein, celle à laquelle il va confier ses tourments, ses secrets, ses ambitions aussi.
Il y a presque quelque chose d'un peu incestueux d'ailleurs dans leur relation, non ?
bon, c'est pas Lucile et Chateaubriand, mais il y a quelque chose en tout cas de très très fort. Il y a une complémentarité, une communauté aussi d'intérêts, une relation très forte, ça c'est certain, très très forte.
Et alors ce qui est très triste, c'est qu'évidemment Cordelia, elle meurt très très jeune. Excusez-moi, je suis toujours obligé de vous couper, c'est à cause du délai que nous avons.
Pardon, voilà. Oui, elle meurt assez jeune, hein. Elle meurt en 1777, hein. Elle a 27 ou 28 ans, elle meurt en couche, hein, ce qui était là aussi courant à l'époque. Donc pour Goethe, c'est une perte vraiment importante. Voilà. Et il reparlera plus tard de Cornelia, hein, comme une sorte de sœur, de confidente, d'amie et de témoin de ses premiers essais.
Continuons, Sylvie Lemoyle, de faire un peu le portrait de cet enfant qui était Goethe. Est-ce qu'on peut dire que c'était un enfant esthète ? Il y a cette anecdote qui dit qu'il avait certaines exigences et que sa mère racontait qu'il n'aimait pas jouer avec des petits camarades si ceux-ci n'étaient pas à ses yeux très beaux. Est-ce que c'est vrai ?
C'est peut-être vrai. Ce qui est sûr, c'est qu'il a très tôt le goût pour le beau. Le sens du beau et qu'il a aussi la conscience de sa valeur, qui va de pair avec certains doutes, bien sûr. Mais il recherche le beau, il se distingue aussi des enfants turbulents, peu assidus à l'étude qu'il peut rencontrer. Et en ce sens, il est aussi conscient d'une certaine fascination qu'il exerce.
Mais d'ailleurs, il est coutumé d'altercations avec certains élèves et ça va lui poser des problèmes à l'école.
Oui, alors il n'a pas été énormément à l'école, il a quand même été aussi beaucoup élève de précepteurs, donc leçon particulière. Mais on sait que effectivement ses contacts avec ses camarades d'école ne sont pas très bons, sans doute justement parce que il se sent déjà différent.
Qu'est-ce qu'on peut dire sur son milieu social d'origine, sur ses parents ?
Alors, c'est la bonne bourgeoisie franc-tortoise. Du côté de sa mère en particulier, une bourgeoisie bien établie, puisque son grand-père maternel est le premier bourgmestre de la ville libre de Francfort, donc une fonction vraiment importante. Son père, lui, est juriste, a aussi une fonction comme conseiller impérial, donc une famille établie, bourgeoise. Et ce qu'on sait, c'est que son père tient beaucoup à la formation de ses deux enfants. Et à une formation qui est riche, qui est diversifiée, qui est aussi inspirée par les propres prédilections du père. Hein. Le père de Goethe avait fait un voyage en Italie, connaissait très bien l'italien, avait même rédigé son récit de voyage en Italie, en italien, avait chez lui des gravures, des tableaux qui représentaient l'Italie. Et ça va nourrir la passion de Goethe pour un pays avec une culture pluriséculaire. Donc en ce sens, le milieu familial, là, une influence tout à fait positive sur son développement.
Et oui, Goethe qui va déjà chercher des livres dans la grande bibliothèque de son père, puisque lui-même s'intéresse très tôt à l'Italie, fantasme un petit peu sur les voyages qu'il pourrait faire, accroche sur les murs de sa chambre des cartes qui le font rêver. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi des événements de son enfance, de l'environnement historique dans lequel Goethe grandit, Sylvie Lemoyle?
Alors, il y a deux événements clés qu'on pourrait mentionner. Alors, il y a un événement peut-être le plus important pour lui, c'est durant la guerre de 7 ans, donc entre 1756 et 1763. Il y a un moment où Francfort est occupé, en 1759, par les troupes françaises. Et donc, le père de Goethe est obligé d'héberger chez lui un occupant, mais pas n'importe lequel, le comte de Thoranc, qui est un homme cultivé, qui est quelqu'un qui va sympathiser avec le petit garçon, hein, donc il a une dizaine d'années, alors que son père, lui, reste très hostile à l'occupant. Et Goethe, qui déjà connaît un peu le français, qui a déjà des rudiments de la culture française, va avoir des échanges très fructueux avec ce comte de Thoranc, et ça le marquera de façon très, très importante.
Donc c'est une initiation peut-être à la culture française ?
Oui, en tout cas, c'est une confirmation, parce que Goethe, par ailleurs, dans la bibliothèque de son père, va lire beaucoup d'ouvrages français. Mais en tout cas, c'est une sympathie avec la culture française et avec la littérature française, très jeune.
Et donc, l'autre événement que vous vouliez mentionner, c'est quoi ? Est-ce que c'est le tremblement de terre de Lisbonne, par exemple, 1755 ?
Oui, quand même, parce que, voilà, alors, bon, Goethe est encore très très jeune, bien sûr, mais c'est un événement qui secoue à tous les sens du terme, qui secoue toute l'Europe, et en tout cas, il retrace dans Poésie et Vérité l'ébranlement que ça représente dans les certitudes, dans un certain optimisme des Lumières, et donc c'est un événement qui constitue là aussi une sorte de rupture, de césure, hein, avec la croyance dans une civilisation qui va progresser sans cesse, et le tremblement de terre de Lisbonne rappelle que toute civilisation est fragile et que la bonté divine n'est peut-être pas celle que l'on croit.
Alors, adolescent, Goethe attrape la petite vérole, il perd même la vue pendant quelques jours, mais il va s'en remettre, il va guérir, comme il avait déjà guéri de la rougeole et de la varicelle qui avait malheureusement emporté ses frères et ses sœurs, sauf donc Cornelia dont vous nous avez parlé, Sylvie Lemoyle. Tous ces enfants morts, on imagine que ça a rendu l'atmosphère quand même assez pénible, assez austère dans la famille et que ça a dû marquer le jeune Goethe.
Oui, sans doute, mais en tout cas, on n'a pas l'impression, en tout cas dans Poésie et Vérité, que ça a quand même totalement assombri son univers, parce que il est quand même suivi de très près par ses parents, il y a cette complicité avec Cornelia, donc c'était tellement courant à l'époque qu'on peut pas dire que pour lui ça a été un drame épouvantable comme ça pourrait l'être dans notre civilisation contemporaine.
Donc il préfère oublier cela et se promener à Francfort. C'est quelque chose qu'il fait beaucoup justement avec sa sœur Cornelia. Francfort, sa ville dont l'histoire l'intéresse beaucoup, notamment son quartier juif parce qu'il a étudié l'hébreu. Il a composé même une épopée sur les juifs. Il connaît bien l'Ancien Testament. Donc on peut souligner, c'est important, que c'est un homme qui va toujours rester imperméable à tout antisémitisme parce qu'il connaît bien la culture juive.
Alors, il connaît peut-être pas très profondément la culture juive, mais en tout cas, il est familier, bien sûr, avec la Bible. Il y a effectivement aucune hostilité qu'on peut retrouver dans ses écrits. Et il restera toujours familier des textes bibliques, et donc, pour lui, même s'il connaît peut-être pas très bien le monde juif, hein, en tout cas, il n'y a pas d'hostilité. Il n'y a aucun antisémitisme qu'on peut relever chez Goethe, ce qui ne sera pas forcément le cas de ses contemporains. Hein. Et en ce sens, c'est un des aspects de Goethe qu'il faut souligner.
Alors, on a évoqué la complicité très forte avec sa sœur. C'est peut-être finalement l'amour de sa vie, ou en tout cas la femme avec qui il sera le plus complice. Mais il va y avoir énormément de femmes dans la vie de Goethe. Et il faut d'abord signaler un premier amour qui est Marguerite. Marguerite, un prénom qu'on va retrouver dans son premier Faust, où le personnage féminin principal porte donc ce prénom. On écoute justement un extrait du premier Faust où il est question donc de Marguerite.
Ma belle demoiselle, oserais-je hasarder de vous offrir mon bras et ma conduite ?
Je ne suis ni demoiselle, ni belle, et je puis aller à la maison de la conduite de personne.
Elle se dégage et s'enfuit. Par le ciel, que cette enfant est belle ! Je n'ai encore rien vu de semblable. Elle est si honnête et si vertueuse, et elle a pourtant en même temps quelque chose de si piquant. La rougeur de ses lèvres, l'éclat de ses joues, de ma vie, je ne les oublierai. La manière dont elle a baissé les yeux, cela était à ravir. Toi, approche, il me faut avoir la fille.
Et laquelle ?
Celle qui passait ici à l'instant.
Celle-là ? Elle sortait de chez son confesseur qui l'a absoute de tous ses péchés. Songez aux obstacles, aux imprévus. Il me faudrait 14 jours au moins pour dénicher l'occasion. Mais pour vous montrer que je veux sincèrement vous servir et adoucir vos tourments, ne perdons pas un moment. Dès aujourd'hui, je vous conduis dans sa chambre.
Je sens bien que monsieur me ménage. Il s'abaisse au point de me rendre toute honteuse. Je sais fort bien qu'un homme aussi expérimenté ne peut s'entretenir avec ma pauvre conversation.
Un regard de toi, une seule parole m'en dit plus que toute sagesse de ce monde. Il lui baise la main.
Ne prenez pas la peine. Comment pouvez-vous me baiser la main? Elle est si sale, si rugueuse.
Tu me reconnus, n'est-ce pas, mon petit ange, dès que j'arrivais dans le jardin?
Ne vous en êtes-vous pas aperçu? Je baissais soudain les yeux.
Elle cueille une marguerite et en arrache les pétales les uns après les autres. Que veux-tu en faire? Ce n'est pas un bouquet?
Non, ce n'est qu'un jeu.
Comment?
Allons, vous vous moquerez de moi.
Elle effeuille et murmure tout bas. Que murmures-tu?
Il m'aime. Il ne m'aime pas.
Douce figure du ciel.
Il m'aime, non. Il m'aime, non. Il m'aime.
Extrait de Faust, lu par Guillaume Gallienne, Stéphane Varupren et Adeline Dermy, où Goethe transpose donc son amour de jeunesse pour Marguerite. Mais ce premier amour, Sylvie Lemoy, elle est quelque peu ratée, parce que Marguerite elle-même ne comprend pas très bien ce que lui veut au fond ce jeune homme.
Non, c'est un vrai malentendu. Il faut dire que Goethe est un petit peu manipulé aussi par des camarades qui lui ont fait écrire des lettres d'amour à cette jeune fille. Et donc, elle a cru qu'il s'agissait d'une plaisanterie. Et puis, Goethe la rencontre, essaie de lui faire comprendre que ça n'est pas le cas, mais il est encore jeune, elle le prend pour quelqu'un de très jeune. Et puis, cette première relation très timide va être révélée à son père, qui va le prendre très mal. La jeune fille va être éloignée de la ville, et Goethe a une réaction, il tombe malade, voilà, il tombe malade, on dirait qu'il a une sorte de petite dépression, hein, dont il va sortir grâce à un de ses précepteurs, grâce à... En fait, qui se replonge dans les études.
Et il va du coup à Leipzig. À Leipzig, à l'âge de 16 ans, on est à ce moment-là en octobre 1765. Et là, donc, il entre à l'université pour faire de la philosophie et du droit, mais de manière un peu étonnante peut-être. Il ne s'intéresse au fond pas tellement à la philosophie. Il préfère abandonner ses études et conserve quand même la partie qui concerne le droit.
Oui, alors il va concerner la partie qui concerne le droit, tout simplement, parce que c'est une prescription de son père et qu'il ne peut pas totalement s'y dérober. D'ailleurs, il va continuer ses études de droit, hein, à Leipzig, puis à Strasbourg. Il les terminera à Strasbourg. Il aura son doctorat, il deviendra ensuite avocat. Donc, il aura rempli la mission qu'on lui a assignée. Mais par ailleurs, Leipzig, la première phase de ses études, c'est important pour lui, parce que Leipzig, c'est la ville qu'on appelait le Petit Paris. C'est une ville qui a été marquée par les Lumières. Et c'est la ville, et c'est la période aussi où il va commencer à se considérer comme poète, à chercher sa voix de poète et à chercher sa langue de poète.
C'est aussi à un moment où il est un petit peu dandy, il s'habille de façon très fantaisiste, ce qui fait que parfois il est même assez mal vu par ses camarades qui considèrent qu'il est bien, bien étrangement habillé.
Oui, je pense que c'est aussi parce que il change d'expérience. Il sort de cette bonne ville bourgeoise, il va dans une ville où il y a une culture plus mondaine, il essaie de se mettre au diapason, donc de façon peut-être encore un peu maladroite, mais il essaie de s'adapter à un autre type de sociabilité. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui sera caractéristique de Goethe, quand il change d'univers social, eh bien, il s'adapte.
Alors il s'adapte, il est introduit dans la bourgeoisie, il va par exemple habiter chez un médecin et botaniste, le conseiller Ludwig. Il fait la connaissance de Johann Georg Schlosser, avocat à Francfort, secrétaire aussi du duc Louis de Wurtemberg, qui est aussi un correspondant de Rousseau. Et puis là, il connaît un deuxième amour, cette fois pour Annette. Et c'est à cette époque qu'il écrit à sa sœur Cornelia qu'il aime toutes les femmes, mais, et c'est important, sans s'attacher à aucune. Et là, on a l'impression qu'on a une espèce de conscience de ce que sera sa vie amoureuse.
Oui, sans doute, parce que la relation peut être très intense, mais elle évolue, elle se transforme en amour-amitié, et puis Goethe a une œuvre à faire, Goethe a une œuvre à écrire. Et de plus en plus, c'est ce qui va se passer. C'est-à-dire que ces rencontres sont enrichissantes, elles vont le stimuler, elles vont lui permettre de transformer cette matière amoureuse en matière poétique. Mais effectivement, il ne s'attache pas.
Alors pourquoi va-t-il à Strasbourg? Pourquoi traverse-t-il la frontière en 1770? Et finalement, que pense-t-il de cette ville française?
Alors, il va à Strasbourg, son père l'y envoie, pour finir donc ses études. Alors, en fait, Strasbourg, pour lui, ça va être, bien sûr, l'endroit où il va finir ses études, mais ça va être un véritable choc, et ça va être aussi une série de rencontres. Mais Strasbourg est à la confluence de la culture germanique et de la culture latine. Il y a encore beaucoup de traces du passé allemand de Strasbourg. Et puis, à Strasbourg, il va faire une rencontre décisive, c'est celle avec Herder. Alors Herder, c'est le philosophe, le penseur, c'est celui aussi qui va être l'initiateur de ce fameux Sturm und Drang, qui en sera aussi un peu le théoricien. Il va aussi rencontrer Lenz, un jeune auteur dramatique, avec lequel il va aussi se lier d'amitié. Et donc, à Strasbourg, il va découvrir la cathédrale de Strasbourg, qui est un véritable choc, et qui donnera lieu à un magnifique texte qui publiera quelques années plus tard, à la gloire du génie maître d'œuvre de la cathédrale de Strasbourg. Avec ses rencontres avec Herder, c'est aussi la découverte de la littérature populaire, des chants populaires qu'il va recueillir dans la campagne alsacienne, sur les conseils de Herder. Et puis Strasbourg, bien sûr, les excursions dans la campagne, c'est la fameuse rencontre avec Frédéric Brion, qui va être ensuite mythifié dans Poésie et Vérité.
Donc encore un amour de Goethe. Sur cette cathédrale de Strasbourg, c'est vrai qu'à l'époque, peut-être qu'elle est considérée comme architecturalement un petit peu dépassée, son architecture est gothique, et au fond, le fait qu'il aime tellement cette cathédrale fait de Goethe un pré-romantique, mais presque sans le savoir, Sylvie Lemuel.
C'est lié à deux choses, sans doute. La première, c'est la redécouverte du passé médiéval, et d'un passé médiéval germanique. La deuxième, c'est donc le génie créateur de ce Erwin von Steinbach, le créateur de la cathédrale. Et en ce sens, oui, c'est cette architecture gothique qui est le produit d'un art qui se développe de façon organique. Et donc, il y a une sorte de fascination qui est exercée sur Goethe par cette œuvre. Et en même temps, c'est aussi la réhabilitation qui s'amorce, bien sûr, de cet art gothique. Et là, effectivement, il est vraiment un précurseur, puisque c'est bien avant les textes de Chateaubriand sur la cathédrale gothique.
Même si lui, on y reviendra, s'identifiera davantage plus tard avec le classicisme.
Jamais plus beau jeune homme n'avait franchi les portes de Strasbourg. Longtemps avant d'être célèbre, il était comparé à Apollon. Quand il entrait dans un restaurant, les convives laissaient tomber leurs couteaux et leurs fourchettes pour le regarder. Ses portraits ne donnent qu'une faible idée de sa personne. Ils offrent le dessin et non les jeux de ses traits. Et encore ne sont-ils pas parfaitement exacts quant à la forme. Ses traits étaient littéralement taillés, comme dans les beaux types de l'art grec. Il avait un front élevé et large, au-dessus duquel étincelaient de grands yeux bruns d'une rare beauté, dont les prunelles avaient un développement extraordinaire. Le nez, légèrement aquilin, large, avec élégance, la bouche, avec la lèvre supérieure un peu relevée, forte et expressive. Le menton et la mâchoire étaient en proportion avec le reste, et la tête reposait sur un beau cou, musculeux. Sa taille était au-dessus de la moyenne, mais sans être grand en réalité. Il avait l'air d'un homme grand, parce que son port était imposant.
La Compagnie des Heures avec cet extrait du portrait que l'anglais George Henry Lewis dresse de Goethe à son arrivée à l'université de Strasbourg dans la biographie qu'il lui consacre et dans une lecture de Michael Cohen. Donc en 1770 à Strasbourg, Goethe a 20 ans, c'est un très beau jeune homme, on vient de l'entendre, et il y en a une qui évidemment tombe amoureuse de lui, c'est Frédéric Brion, vous l'avez dit, Sylvie Lemoyle, elle habite à Sessenheim en Alsace. Ça va être peut-être le plus grand amour de Goethe. Certains diront même qu'il a été comme accouché par Frédéric et qu'elle est inconsciemment pour lui la mère qui lui a permis de franchir une étape capitale dans sa vie, d'accéder à la maturité. Et pourtant, Sylvie Lemoyle, à Strasbourg, il n'a pas été vraiment heureux. C'est peut-être parce qu'il s'est mal adapté, au fond, à cette culture française, celle des Voltaire et des Diderot, que peut-être il n'aime pas tant que ça. Il préfère sans doute Shakespeare, par exemple.
Alors, la période de Strasbourg, bien sûr, c'est lié aussi à l'exaltation de Shakespeare. Alors, l'exaltation de Shakespeare, qui lui a été préconisé bien sûr par Herder, qui est un des grands laudateurs de Shakespeare, qu'il partage aussi avec le jeune Lenz. Et évidemment, Shakespeare, à l'époque, est opposé au théâtre classique français. Donc, c'est le contre-modèle absolu. C'est le modèle absolu des jeunes auteurs du Sturm und Drang. Évidemment, Goethe, du coup, va délaisser peut-être ces modèles classiques qu'il connaissait bien, et sa première grande pièce, celle qui va lui donner la célébrité, c'est Götz von Berlichingen, c'est une pièce qui se veut sur le mode shakespearien.
Mais la célébrité, c'est surtout, à la même époque, Les souffrances du jeune Werther, un livre assez incroyable, dont on parlera demain. Sa réception aussi est assez incroyable. On peut juste dire que, très jeune, il écrit beaucoup, Sylvie Lemoyle, et que, au fond, il atteint déjà une stature très très importante, même qui dépassera les frontières.
Oui, alors là, il l'acquiert vraiment avec ses deux coups d'éclat, Goethe, ce drame de chevalerie, et puis Werther, bien sûr. Donc 1773-1774, c'est vraiment le moment où Goethe devient l'écrivain qui est celui qui représente la littérature allemande et qui fait de la littérature allemande une littérature plus internationale. Non pas qu'elle n'ait été totalement inconnue, mais en tout cas, le Werther de Goethe, ça va marquer une génération et ça va le rendre célèbre dans toute l'Europe.
Bon, alors, il y a un certain nombre encore de péripéties sur lesquelles on va passer, notamment un voyage en Suisse, une descente avec des amis sur le Rhin. Et puis arrive 1775 où les choses sérieuses vont commencer puisqu'il va s'installer à Weimar. Alors pourquoi Weimar? On peut se demander un petit peu pourquoi ce natif de Francfort finalement s'établit dans une bourgade relativement modeste de Thuringe, d'un capital d'un tout petit État. Qu'est-ce qui fait, selon vous, qu'il va choisir Weimar, Sylvie Lemoyle?
Alors, au départ, il n'a pas vraiment choisi, puisqu'en fait, il a été invité. Il a été invité par le tout jeune duc régnant, Charles-Auguste de Saxe-Weimar. Il a été invité à séjourner, et puis il va s'y installer. Alors, il va s'y installer, effectivement, on peut se dire que c'est un paradoxe, parce que il va être au service du prince, mais il va se développer en même temps une relation très particulière entre les deux. Goethe était l'aîné, il a subjugué le jeune prince.
Qui est encore dans sa minorité, prince est sous la régence, finalement, de sa mère, encore quand ils se rencontrent.
Alors oui, mais très vite il va devenir prince régnant. Hein. Et donc, ça sera une de ses premières façons aussi de s'affirmer, hein, c'est-à-dire de recruter Goethe vraiment, hein, et de l'imposer, hein, à la cour, bien sûr, et de l'imposer comme conseiller, d'abord comme conseiller privé en matière politique économique, et puis conseiller particulier, et enfin président du conseil du duché, hein, c'est-à-dire une sorte de premier ministre. Et là, Goethe vraiment est associé au pouvoir, aux affaires du pouvoir, hein, et va avoir un rôle considérable dans l'évolution de ce tout petit duché. Et vous avez bien dit, un tout petit duché, c'est, le territoire est minuscule, la ville elle-même, il y a quelques milliers d'habitants, très peu. Hein. Donc, c'est vraiment en apparence disproportionné, hein, avec la célébrité que Goethe a acquise. Mais je pense qu'il va avoir, pour lui... Ça va être pour lui l'occasion, finalement, d'essayer d'agir, hein, de ne pas être justement dans seulement la vie politique, mais dans la vie active, d'agir sur le monde, ce qui était un petit peu l'idéal aussi de cette génération du Sturm und Drang, idéal qu'elle n'a pas pu réaliser. Mais là, Goethe est l'ami, le favori, mais aussi celui qui a des pouvoirs, certains pouvoirs, et donc il va expérimenter la vie politique, la vie administrative.
Oui, il faut sans doute insister sur l'attachement très fort qui semble lier les deux hommes, qui sont encore des très jeunes hommes, et notamment pour le duc, parce que ensemble ils conversent beaucoup, ils se promènent, mais ils multiplient aussi les activités physiques, la chasse aux sangliers, les sérénades le soir, le patin à glace à la lueur des flambeaux, les danses, voire même le fait de dormir parfois dans la montagne. Donc il y a quelque chose qui excède vraiment le travail et qui semble réunir ces deux hommes.
Oui, certainement. Et je crois que là, il y a eu un véritable échange, c'est-à-dire que Charles-Auguste a identifié tout à fait le génie auquel il avait affaire. Ce génie, c'était un compagnon, il en a été le mécène, et puis aussi, il a compris que pour son duché, eh bien, c'était une acquisition aussi qui apporterait à son duché prestige, hein, et réputation. Et en l'occurrence, il ne s'est pas trompé. Et Goethe, il y a toute une correspondance de Goethe avec le duc qui dure très longtemps. Et Goethe sollicitera aussi ses conseils, prendra son avis, même en matière littéraire, quitte d'ailleurs à ne pas suivre les conseils que le duc lui donne. Mais c'est vraiment un rapport très très fort, qui n'est pas uniquement celui d'un souverain et de son sujet.
Un homme de pays, un homme qui a vécu toute sa vie à Weimar, presque toute sa vie à Weimar. Weimar avait 5000 habitants. C'était la capitale d'un grand duché, mais c'était un petit pays dans lequel il y avait les cochons qui se promenaient pendant la rue, n'est-ce pas? Et il était d'un côté très provincial, très très provincial, comme un homme, et justement en même temps une européenne, d'une façon qui était tout à fait typique du XVIIIe siècle. Parce qu'il connaissait beaucoup de langues, il était chez lui partout, il lisait les premiers livres de Stendhal qui ont été publiés en français, les premiers livres encore pseudonymes. Et il a écrit sur Stendhal sans le connaître, des choses d'une pénétration incroyable. Et il était chez lui dans la littérature italienne, dans la littérature anglaise, partout. En même temps, c'était quelqu'un lié tellement à Francfort et à Weimar et à ces petites villes qui sont maintenant en Tchécoslovaquie, Karlsbad et comme ça, où il allait faire les villes des eaux, qu'on ne peut pas croire. Oui. Ça, c'est 18e siècle, l'Europe 18e siècle.
La Compagnie des Heures, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Donc vous le disiez, Sylvie Lemoyle, au fur et à mesure que Goethe prend de l'importance, il va aussi occuper des fonctions de conseiller spécial et secret du duc, alors qu'il est lui-même bien plus jeune finalement que beaucoup d'hommes qui pourraient prétendre à cette fonction dans l'entourage du duc. Évidemment, ça n'est pas sans créer un certain nombre de frictions. Lui-même va être assez dégoûté finalement par les engagements politiques et belliqueux qu'il va devoir prendre, mais il devient quand même une sorte d'écrivain politique. Il essaie de concilier finalement les deux. Il arrive à écrire, et dans ces années 1780, il écrit son Wilhelm Meister et aussi son Iphigénie, Sylvie Lemoyle.
Oui, alors il arrive à écrire, il essaie de concilier les deux. Comme Goethe le fera toujours, il s'organise, il se discipline, il écrit tôt le matin. Ensuite, il travaille donc aux affaires de l'État. Il va aussi être chargé d'organiser les fêtes, les divertissements, tout ce qui est en l'honneur des souverains. Il va aussi diriger le théâtre. Et Goethe a une passion pour le théâtre depuis l'enfance, et donc il va prendre très au sérieux ce rôle. Hein. Il va être directeur de théâtre, il va même être acteur, et donc il va essayer de concilier tout cela. Mais il faut bien dire que dans toutes ces années, beaucoup d'œuvres vont rester inachevées. Vous avez mentionné Wilhelm Meister. Wilhelm Meister restera inachevé. Il travaillait aussi à Egmont, son drame historique. Il travaille aussi à son grand drame sur le Tasse. Il sera également inachevé. Hein. Donc finalement, il y a aussi... il y a Iphigénie en Tauride qui, elle, est achevée dans sa première version, en prose, et qui sera représentée en 1779. Il y a aussi sa production lyrique qui se développe de façon très importante, là aussi en liaison avec son amour pour Charlotte von Stein, une grande dame de la cour. Au fur et à mesure que les années passent, il y a quand même une frustration qui va s'installer, dans la mesure où le travail poétique requiert un temps et une concentration qu'il n'a pas toujours.
Alors, il faudrait mentionner ici aussi le travail scientifique de Goethe, parce que c'est à ce moment-là que débute véritablement son activité scientifique. On a l'impression qu'il trouve la paix, au fond. On a dit que c'était quelqu'un qui pouvait être parfois un petit peu déprimé, et il retrouve une sorte de sérénité en classant scientifiquement des choses, des minéraux, en s'occupant de botanique, en s'occupant de géologie. C'est le cas, Sylvie Lemoyle ? Sylvie Lemoyle, est-ce que vous nous entendez ?
Ah oui, absolument, absolument. Et je dirais Goethe, en fait, observe, expérimente, il herborise, il collectionne. Oui ? Allô ?
Oui, continuez, je vous en prie.
Oui ? Oui ? Voilà, oui, je disais donc, bien sûr, l'activité scientifique, elle a commencé déjà jeune. Hein. Il s'est déjà intéressé jeune à la botanique, aux minéraux, mais là, ça va prendre une place encore plus importante. Donc, je disais, il expérimente, il herborise, il collectionne, hein, ça fait aussi, bien sûr, un contrepoint à toutes ces activités prenantes et parfois aussi stressantes, comme on dirait aujourd'hui. Hein. Et ça va faire l'objet aussi de recherches très poussées dans tous ces domaines, hein, de botanique, de minéralogie, même de météorologie. Et pour lui, ça va devenir aussi important, en tout cas, que son œuvre littéraire. Son œuvre scientifique, c'est quelque chose à quoi il tiendra énormément.
Et est-ce qu'il apporte quelque chose à la science ?
Alors ça m'est difficile d'en juger, mais il a quand même fait quelques découvertes, hein, le fameux os intermaxillaire, donc il a travaillé sur l'anatomie, hein, il y a sa fameuse théorie des couleurs. Alors ces théories scientifiques ont parfois été contestées, hein, discutées, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui essaie vraiment, il a réfléchi, c'est la fameuse découverte de la plante, hein, la Urpflanze, la plante d'origine, au problème de la métamorphose, au problème de tout ce qui est l'ordre de l'univers. Hein. Il recherche un ordre dans l'univers, un ordre qui donnerait une unité à la multiplication des phénomènes. Hein. Donc, ce qui le conduit à échafauder effectivement des théories scientifiques.
Alors, il ne faut pas que les auditeurs s'inquiètent, il y a un délai un petit peu long entre les questions et les réponses, mais c'est normal, c'est parce que nous sommes à distance. Pour poursuivre sur cette période de cette première période de Weimar, qui est si importante, vous avez mentionné tout à l'heure, Sylvie Lemoyle, Charlotte von Stein, qui est en effet un amour très important dans la vie de Goethe. On a l'impression qu'on ne parle que des amours de Goethe, mais c'est parce que c'est tout à fait majeur. Est-ce que vous pouvez nous en dire peut-être un tout petit peu plus ? Il y a la différence d'âge entre eux, et puis nous parler de cet autre amour, Christiane Vulpius, qui là va devenir sa femme, et c'est un type de relation tout à fait différent, et c'est finalement le nouvel amour, peut-être le vrai d'ailleurs, ou l'un des vrais, celui qui va durer le plus longtemps, de Goethe, Sylvie Lemoyle.
Oui, alors c'est tout à fait différent. Charlotte von Stein, c'est une représentante de la noblesse de cour. C'est une femme cultivée, raffinée, qui va le guider aussi dans l'apprentissage des manières de cour. C'est aussi une inspiratrice, c'est celle qui l'apaise, qui l'équilibre, mais aussi qui inspire sa production poétique. Alors Christiane Vulpius, c'est tout à fait différent. Christiane Vulpius, il la rencontre, il la connaît après son retour d'Italie, donc en 1788. Et c'est une jeune fille qui est d'un milieu modeste. Elle travaille dans un atelier de fleurs artificielles. Et enfin, au début, elle vient le voir parce qu'elle a une sollicitation. Elle veut qu'il intervienne en faveur de son frère, pour que son frère obtienne une charge et l'aide à les sortir du besoin. Toute la famille Vulpius est pauvre. Hein. Et puis, effectivement, c'est un coup de foudre. Il engage tout de suite une relation avec elle. Il va l'installer chez lui, mais il ne l'épousera pas tout de suite. Elle va devenir effectivement sa compagne, mais elle c'est pas une inspiratrice. Il y a pas d'ambition intellectuelle chez elle. C'est celle qui va veiller sur lui, lui épargner tout souci matériel et lui apporter un équilibre et une plénitude sexuelle. Il l'appelle son petit éroticon. Hein. Donc ça fait scandale à Weimar, hein. Et il ne l'épousera que bien plus tard, hein. Après que Christiane Vulpius aura montré non seulement qu'elle tient à lui, mais qu'effectivement elle assure sa sécurité, puisque Christiane tiendra tête aux troupes françaises qui arrivent à Weimar en 1806 et qui menacent de piller la maison. Goethe est alors absent et Christiane réussit à détourner les pillards. Il lui en sera extrêmement reconnaissant et il l'épousera en reconnaissance en fait. Hein. Donc il officialisera une liaison qui n'est pas quelque chose qui est considéré en général par la critique, et en tout cas pas par les contemporains, hein, comme quelque chose de remarquable et de sublime, loin de là. Hein, mais c'est quelqu'un qui a compté énormément dans sa vie, parce qu'elle lui a apporté cette sécurité à laquelle il aspire. Cette sécurité matérielle, puisqu'elle veille sur lui, et puis aussi cette plénitude amoureuse, sans angoisse, sans peur, sans culpabilisation.
Alors c'est d'ailleurs, je le dis au passage, une histoire que raconte avec beaucoup d'ironie et d'humour Milan Kundera dans l'un des premiers chapitres de son grand roman L'Immortalité. Puisque vous parlez des troupes françaises d'occupation, je vous propose d'évoquer à présent la rencontre entre Goethe et Napoléon.
L'empereur est assis à une grande table ronde. Il déjeune. À sa droite, à quelque distance de la table, est Talleyrand. À sa gauche, Daru, avec qui il parle de contribution. L'empereur me fait signe d'approcher. Je reste debout devant lui à une distance convenable. Après m'avoir considéré un moment, il me dit « Quel âge avez-vous ?»« 60 ans. »« Vous êtes bien conservé, vous avez écrit des tragédies ?» Je réponds le plus nécessaire. L'empereur porta ensuite la conversation sur Werther, qu'il devait avoir étudié à fond. Après plusieurs observations tout à fait justes, il me signala un certain endroit et me dit « Pourquoi avez-vous fait cela? Ce n'est pas naturel. » Et il développa sa thèse longuement et avec une parfaite justesse. Je l'écoutais, le visage serein, et je répondis avec un sourire de satisfaction que j'ignorais si jamais personne m'avait fait le même reproche, mais que je le trouvais parfaitement fondé. Et je convins qu'on pouvait reprocher à cet endroit un défaut de vérité. Mais, ajoutai-je, le poète est peut-être excusable de recourir à un artifice qui n'est pas facile à découvrir pour produire certains effets auxquels il ne serait pas arrivé par une voie simple et naturelle. L'empereur parut être de mon avis. Il revint au drame et fit des réflexions d'un grand sens en homme qui avait observé avec beaucoup d'attention, comme un juge criminel, la scène tragique, et qui avait profondément senti que le théâtre français s'était éloigné de la nature et de la vérité.
Une lecture par Vincent Schmitt du récit de la rencontre de Goethe avec Napoléon en 1808. Napoléon va même lui proposer de venir à Paris pour y créer un nouveau théâtre, mais ça ne va pas intéresser Goethe, qui va refuser la proposition de Napoléon. C'est important cette rencontre, ou est-ce que ça reste anecdotique? Qu'est-ce qu'on peut en tirer au fond, Sylvie Lemoyle?
Alors, en soi, c'est une anecdote, mais c'est quand même intéressant parce qu'il y a une reconnaissance mutuelle. Je dirais, c'est le génie de l'action qui reconnaît le génie littéraire. Goethe n'est pas du tout insensible à la marque de reconnaissance. Mais en même temps, Goethe, il y a chez lui une certaine admiration pour l'énergie de Napoléon. Une manifestation qui est ce qu'il appellera une manifestation du démonisme, c'est-à-dire une force intérieure, une pulsion énergique, qui peut se muer en force créatrice ou en force destructrice, avec une face sombre, avec une face lumineuse. Napoléon incarne cette force, cette énergie, avec ses faces sombres, avec ses faces lumineuses. Napoléon est peut-être aussi celui qui peut garantir un nouvel équilibre, une nouvelle paix en Europe, après le bouleversement de la Révolution. Et en ce sens, donc Goethe va se distinguer tout à fait de ses contemporains. Et je pense en particulier, bien sûr, à Kleist, puisque après la défaite prussienne, la défaite d'Iéna, petit à petit, il y a un mouvement qui va se faire de contestation, Napoléon devenant le symbole de la tyrannie, le tyran à abattre. Et Kleist, par exemple, va écrire un catéchisme des Allemands en 1809, où il explique que Napoléon est l'antéchrist, qu'il faut s'unir pour lutter contre le tyran. Et Goethe reste très, très à l'écart de tout cela. Il garde cette admiration pour Napoléon. Donc Goethe, c'est un moment historique, une force qui aura ses limites, qui passera. Et Goethe ne se ralliera d'ailleurs pas pour autant à une construction identitaire d'un État-nation allemand, mais gardera cet intérêt distancié, toutefois, pour la figure de Napoléon.
Peut-être qu'au fond, Goethe est un homme qui aime l'ordre malgré tout et qu'il voit en Napoléon quelqu'un qui, sait parfois mettre de l'ordre, même très souvent, même beaucoup trop.
Oui, sans doute beaucoup trop. Alors Goethe n'est pas un admirateur inconditionnel de Napoléon, mais Goethe effectivement aime une certaine forme d'ordre, ça c'est incontestable. Alors on lui en a beaucoup voulu, on lui a expliqué qu'il était le valet des princes, qu'il était soumis à l'autorité. En fait, c'est plus compliqué que ça. Goethe aime effectivement un certain ordre qui garantit aussi la faculté, la possibilité de créer, de travailler à une coopération des intellectuels, des artistes, et dans les temps de chaos et de crise, c'est effectivement beaucoup plus difficile. Donc, en ce sens, si l'ordre napoléonien avait garanti la paix et une prospérité permettant justement l'échange culturel en Europe, Goethe n'y voyait pas d'inconvénient majeur.
Étudiant à Strasbourg, vous avez vécu au milieu de la tempête du Sturm und Drang, d'où est sortie la nouvelle littérature allemande. C'est pendant cette période que vous avez écrit Goethe et Werther, qui vous ont fait roi de cette littérature. À Weimar, vous vous êtes servi de votre souveraineté pour faire régner avec vous la doctrine de l'art grec, et vous avez écrit Iphigénie. Et maintenant, vous assistez à la floraison du romantisme néo-catholique, néo-féodal, néo-barbare pour lequel vous n'avez, avec raison, que sarcasmes et mépris.
Le rôle de chef de file que vous m'assignez, monsieur Eckermann, pourrait laisser croire que j'ai toujours été un favori de la fortune. On l'a tellement dit que je me garderai de me plaindre et d'invectiver contre le cours de ma destinée. Mais, au fond, cependant, elle n'a été que peine et labeur. Et je puis bien affirmer que pendant mes 75 ans, je n'ai pas eu 4 semaines de vraie satisfaction. Ma vie, c'est le roulement perpétuel d'une pierre qui veut toujours être soulevée de nouveau. Mon journal fera comprendre ce que j'entends par là. On a trop demandé à son activité, soit extérieure, soit intérieure.
Mais n'avez-vous pas découvert le vrai bonheur?
Si, dans mes rêveries et mes créations poétiques. Mais combien de troubles, d'obstacles, d'entraves n'ai-je pas trouvé dans ma situation sociale? Si j'avais pu demeurer davantage à l'écart de la vie publique et des affaires, si j'avais pu vivre davantage dans la solitude, j'aurais été plus heureux.
Cependant, Excellence,
Il faut dire que comme ministre, vous avez rendu d'immenses services au grand-duché de Weimar et par là même à l'Allemagne entière.
C'est vrai, mais en m'écartant de la politique, j'aurais fait sans doute plus de beaux vers. C'est ainsi que je devais, aussitôt après mon Goethe et mon Werther, vérifier la parole d'un sage qui dit « Lorsqu'on a fait quelque chose qui plaît au monde, il s'arrange pour vous empêcher de le faire une seconde fois. » Un vaste renom, une haute position ont leur prix, mais avec ma réputation et ma situation, je ne suis parvenu à autre chose qu'à taire ce que je pense de l'opinion des autres de peur de les blesser. Tout cela ne serait qu'une mauvaise plaisanterie si je n'avais ainsi l'avantage de connaître l'opinion des autres, tout en leur laissant ignorer la mienne. Mais parlons d'autre chose.
Compagnie des heures avec cet extrait des conversations de Goethe avec Eckermann, lui, lu par Louis Arbessier et Michel Bouquet. Elles sont importantes, ces conversations avec Eckermann, évidemment, Sylvie Lemoyle, parce qu'elles nous indiquent beaucoup de la façon dont Goethe pouvait penser. Elles sont sans doute inspirées des conversations de Lord Byron. Qu'est-ce que vous retenez de ce qu'on vient d'entendre ?
Que Goethe n'a sans doute pas regretté son engagement, qui est plutôt un engagement qui a permis de réaliser ses aspirations à l'action, ses aspirations au contact, à l'échange. Mais il est certain que plus les années passent, plus il se concentre sur son œuvre, plus il prend des distances par rapport à l'actualité, que ce soit l'actualité politique. Plus il a le sentiment aussi qu'il appartient à une génération qui n'est plus, d'où ses dissensions avec la génération romantique, bien sûr. Il prend conscience de son vieillissement. Il prend conscience aussi de ce que sa curiosité intellectuelle qui reste, qui n'est pas émoussée, son intérêt pour la littérature européenne, pour la littérature extra-européenne, la Weltliteratur, la littérature mondiale, c'est la meilleure réponse qu'il peut apporter à une époque dont il s'éloigne, mais qui s'éloigne aussi de lui, et qui est aussi la façon dont il continue à créer, dont il continue à réfléchir, à penser, et qui permet de concilier l'activité intense et une recherche de la sérénité, une recherche qui est difficile, mais qui caractérise quand même ces dernières années.
Alors, on n'a pas dit qu'il avait eu un fils, Auguste, qui va mourir avant lui, en 1830, en Italie. Goethe meurt le 22 mars 1832. On n'a pas évoqué non plus le nom de Schiller, qui est pourtant important, Sylvie Lemoyle. Cette amitié très forte entre l'un et l'autre va beaucoup le marquer.
C'est plus qu'important, c'est capital. Dans sa deuxième période de Weimar, quand il est rentré en Italie, où il est un peu désabusé par rapport à l'action politique, où il veut vraiment se remettre à son œuvre, parce que le voyage en Italie, ça a été un stimulant extraordinaire, eh bien, il va être stimulé, il va être encouragé par son amitié avec Schiller, par son alliance avec Schiller, qui fait que pendant une décennie, à peu près, 1794-1805, il y aura une émulation intellectuelle, un compagnonnage entre les deux, où Goethe aura vraiment le sentiment d'avoir trouvé la personne avec laquelle il peut vraiment échanger.
Et c'est du coup effectivement très dur pour lui de voir cet ami mourir avant lui. Quand lui-même décède, il y a deux légendes qui se disputent un peu ses dernières paroles. Pour certains, il aurait dit « plus de lumière » et pour d'autres, il aurait dit à sa belle-fille qui le veillait « donne-moi ta petite patte ». Vous pensez que quelle est la phrase qui a été effectivement prononcée ?
Je ne sais pas, mais je trouve que ce qui est intéressant, c'est que c'est la cohabitation des deux. C'est-à-dire plus de lumière, ça donne l'impression d'un Goethe toujours attaché à aller vers les sommets de l'art. Bon, très bien. Et puis en même temps, Goethe est aussi quelqu'un de très humain et quelqu'un qui a tenu justement, et on voit bien dans sa relation avec Christiane, à rester un mortel parmi les mortels. Goethe, ce n'est pas l'Olympien qu'on a créé. C'est aussi un humain avec ses forces, ses faiblesses, ses attachements.
Et c'est ainsi que commence finalement la forme de postérité de Goethe, qui va d'Eckermann à Kundera, en passant par Webern, Bartok, Berg, Freud aussi, la psychanalyse. On pourrait citer le grand livre de Pietro Citati, et puis peut-être bientôt votre livre, qui sait, Sylvie Lemoyle, nous l'attendons pour nous raconter encore plus avant la vie de Goethe, comme vous l'avez fait si brillamment aujourd'hui. Merci et à bientôt. C'était La Compagnie des œuvres, une émission proposée par Didier Pinot, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Romain Billet et Jérémy Kaufmann.